Le trésor épistolaire de la France, lu par Christiane Jehan. Fénelon, 1655-1715. La correspondance de Fénelon est la partie la plus volumineuse de ses œuvres. En joignant aux 11 volumes de l'édition la plus complète le volume des lettres inédites qui est venu remplir plus d'une lacune, on arrive à un ensemble tel qu'il n'y a personne au XVIIe siècle, sans excepter Madame de Sévigné, qui est plus usée du style épistolaire. Mais toutes les séries de cette correspondance ne nous intéressent pas au même degré. Nous laisserons de côté celles qui ont trait au débat de doctrine religieuse, à la grande affaire du quiétisme par exemple, ou à l'administration intérieure du diocèse de Cambrai, pour ne nous occuper que des lettres intimes, de celles où se déploient, avec tout leur charme et leur puissance, l'esprit et le cœur de Fénelon. Les premières en date remontent à sa jeunesse. Il avait 30 ans lorsqu'il écrivait à la marquise de Laval, sa cousine, ses spirituels et moqueurs récits des réceptions faites à leur nouvel évêque par les petites villes qu'il visitait dans sa tournée diocésaine. Le ridicule des mœurs de province, si prodigieusement arriéré alors pour ce brillant et aristocratique prélat arrivant tout droit de la cour, est saisi dans les deux lettres que nous citons avec une verve malicieuse et une ironie toute mondaine qui font le plus piquant contraste avec la douceur et l'onction habituelle du pieux écrivain. Sans entrer dans l'examen minutieux des lettres spirituelles, la plus importante branche de sa correspondance, nous ne pouvons nous dispenser de signaler celles adressées à la comtesse de Gramont, cette digne sœur, par l'esprit et par la grâce, d'Hamilton, le célèbre auteur des Mémoires. C'était une pénitente que son orgueil, son esprit difficile et moqueur, les délicatesses infinies de sa nature, rendaient bien difficile à convertir à l'humilité chrétienne, et qui offrait bien peu de prise aux plus habiles directeurs. Aussi faut-il admirer avec quelle dextérité Fénelon s'est manié, humilié, dompté cette âme hautaine, sans s'écarter jamais de la politesse mondaine indispensable pour se faire écouter. Avec une personne plus sérieuse et plus faite pour s'entendre dire ses vérités, Madame de Maintenon, Fénelon est encore plus sévère et plus net. La lettre où, sur sa demande, il lui fait la critique de son caractère et lui dénonce les défauts dont on la voit s'accuser elle-même dans sa correspondance, ne fait pas seulement honneur à la perspicacité de ce directeur doué d'un tact si sûr et si fin, elle fait aussi honneur à sa franchise. Il y avait un vrai courage, de la part du précepteur du petit-fils de Louis XIV, à ne pas ménager davantage la susceptibilité de la femme de qui dépendait toute sa fortune. Mais c'est surtout envers son royal élève que Fénelon déploie certaines hautes parties de son caractère qui, dans une nature moins richement douée, aurait été incompatible avec la douceur inaltérable, l'inépuisable bonté qu'il garde jusque dans ses plus grandes sévérités. Il aimait avec une noble et mâle tendresse ce jeune homme qu'il avait formé avec tant de peine et de sollicitude, sur lequel reposaient ses plus chères espérances de réforme politique. Car il y avait aussi un citoyen dans Fénelon, et la façon outrée dont le XVIIIe siècle a interprété sur ce point ses plans et ses remontrances ne doit pas nous faire méconnaître cet honorable trait d'un caractère dévoué à ce qui, dans tous les ordres, littérature, politique, religion, lui paraissait être la vérité. Mais, disgracié, exilé dans son archevêché princier, il ne pouvait entretenir avec le duc de Bourgogne que de rares et furtives relations. Il ne parvint à communiquer librement avec le jeune prince que quand celui-ci vint prendre le commandement de l'armée des Flandres, 1708. Il lui avait précédemment écrit plusieurs lettres fort pressantes sur les devoirs de son rang, entre autres celle qui commence par ces mots célèbres « Fils de Saint-Louis, imitez votre père » et qui, par l'ampleur du style, la fermeté de la pensée, est devenue à bon droit classique. Mais, maintenant que le duc de Bourgogne est plus près de lui, la correspondance de Fénelon prend une activité en rapport avec toute sa sollicitude pour la réputation du jeune prince qui avait à faire ses preuves de courage et d'habileté aux yeux de l'armée et de la nation. Si celui-ci, de son côté, s'accuse de ses faiblesses et de ses défauts avec une généreuse humilité, c'est que l'affectueuse et hardie sincérité de son ami l'élève au-dessus de lui-même. Non content de le reprendre et de lui signaler ses fautes en accompagnant ses respectueuses censures de conseils précis et pratiques, Fénelon finit par se faire l'interprète de l'opinion publique, sans aucun ménagement pour l'amour-propre de son royal correspondant. Dans l'emportement de la douleur que lui causaient les torts de celui qu'il servait avec tant de dévouement et qu'il entendait accuser hautement d'impéritie, il va jusqu'à lui écrire « Le public vous aime encore assez pour désirer un coup qui vous relève. Mais si ce coup manque, vous tomberiez bien bas. La chose est dans vos mains. Pardon, monseigneur, d'écrire en fou, mais ma folie vient d'un excès de zèle. » Ce que l'histoire a peut-être de plus favorable à dire du duc de Bourgogne, c'est qu'il accepta, avec une noble patience, ce sévère langage, peu fait pour l'oreille d'un petit-fils de Louis XIV. Disons du reste que tel est l'ascendant de la franchise noblement professée, que ceux qui, par caractère, auraient pu s'en offenser le plus, Madame de Maintenon et sans doute Louis XIV lui-même, rendirent justice à Fénelon sur ce point quand la mort si imprévue du jeune prince fit tomber les lettres de son ancien précepteur entre leurs mains. On peut en juger par un curieux passage d'une lettre de Madame Maintenon au duc de Beauvilliers où, parlant précisément des papiers du duc de Bourgogne, elle ajoute « Je voulois vous renvoyer tout ce qui s'y est trouvé de vous et de monsieur de Cambrai. Mais le roi a voulu le brûler lui-même. Je vous avoue que j'y ai eu grand regret, car jamais on ne peut écrire rien de si beau et de si bon, et si ce prince que nous pleurons a eu quelques défauts, ce n'est pas pour avoir reçu des conseils trop timides, ni qu'on l'ait trop flatté. On peut dire que ceux qui vont droit ne sont jamais confus. » Fénelon porte dans toute sa correspondance ce ton de sincérité absolue. Comme il n'a en vue que l'intérêt moral de ses amis, il n'a aucune raison de dissimuler ou d'affaiblir la vérité que sa tendresse et la double autorité de son rang et de ses lumières lui donnent le droit et le devoir de professer hautement. Chez les plus éminents d'entre eux par l'âge et le mérite, les ducs de Beauvilliers et de Chevreuse, il n'a guère à reprendre que les défauts mondains qui font obstacle au plein effet de qualités plus hautes, mais il le fait avec une insistance qui ne craint point d'être importune ou fastidieuse. L'ami tient ici le langage du plus sévère directeur, et ses conseils, inspirés par une incessante sollicitude, composent une sorte de traité de direction laïque à l'usage de ses correspondants. Mais aussi, dès que quelque danger les menace, dès que quelque affliction grave les frappe, comme l'ami reparaît seul et se montre empressé à prendre sa revanche. Quel accent d'attachement simple et vrai dans la lettre à la duchesse de Beauvilliers sur la mort de son mari. Il faut distinguer surtout dans cette correspondance les lettres au vidame d'Amiens, plus tard duc de Chaulnes, l'un des fils du duc de Chevreuse. C'était un jeune homme léger de cœur et d'esprit, partagé entre le respect, dû aux exemples de la maison paternelle, et les entraînements de son âge et du monde dont il était. Fénelon ne se lasse pas d'ensemencer cette terre ingrate. Personne n'excellait d'ailleurs autant que lui à faire pénétrer dans les natures les plus rebelles le regret ou le désir d'une vie meilleure. Sans rien retrancher du fond de la piété, il enveloppait ses remontrances d'une affabilité pleine d'enjouement et de grâce que François de Sales a possédé seul au même degré. C'est là ce qui fait le principal charme de la correspondance de Fénelon avec ses trois jeunes amis. Le vidame d'Amiens, le marquis de Fénelon, son neveu, et le chevalier des Touches. Fénelon aimait les jeunes gens. Celui qui a peint avec tant de vivacité et de complaisance les amours de Télémaque et de Charisse avait en lui-même un fond d'indulgence pour les passions mêmes qu'il reprenait avec une sévérité souriante. Le ton de ses lettres à son neveu est celui d'une tendresse toute paternelle et de la familiarité la plus abandonnée. Aussi y trouve-t-on fréquemment trace de la secrète faiblesse que Fénelon garda jusqu'au bout pour la doctrine qu'il avait naguère séduit. Ses conseils à Fanfan sont pleins du mysticisme le plus marqué, et l'état d'âme qu'il lui propose comme le modèle de la perfection rappelle les errements de Madame Guyon et des maximes des saints. Mais l'accent pénétrant de l'affection la plus vive et la plus dévouée domine toute autre impression. Le chevalier des Touches était un brillant officier, dont l'esprit et l'érudition avaient séduit l'archevêque de Cambrai, moins encore que les rares qualités d'un caractère resté droit et sincère en dépit de tous les entraînements d'une vie de plaisir. La correspondance de Fénelon avec le chevalier n'est au début qu'un commerce d'esprit et d'érudition, Il n'y est question d'abord que de citations de leurs poètes favoris, Virgile et Horace, ou d'épigrammes latines que le chevalier avait envoyées au prince évêque. Mais l'attachement que Fénelon avait voué au jeune officier était trop sérieux, trop profond, pour qu'il pût s'en tenir là. Il prit à cœur ses intérêts spirituels et entreprit de le convertir. Afin de ne pas trop effaroucher un esprit que la sévérité eût mis en fuite, il imagina d'introduire le christianisme à la faveur de la sagesse profane du plus mondain des poètes de l'Antiquité. Les satires et les épîtres d'Horace servirent de passeport à l'Évangile. Le ton de badinage et d'enjouement n'en exclut pourtant pas toujours un plus grave. Quand éclate l'épidémie, qui décima si cruellement la famille royale, à la première nouvelle de la mort de la duchesse de Bourgogne, Fénelon écrit au chevalier ses poignantes paroles. « Vous voyez combien la vie est fragile. 4 jours, ils ne sont pas sûrs. Chacun fait l'entendu, comme s'il était immortel. Le monde n'est qu'une cohue de gens vivants, faibles, faux et prêts à pourrir. La plus éclatante fortune n'est qu'un songe flatteur. » Quelques jours après, la mort du duc de Bourgogne lui fournit l'occasion d'un touchant retour sur son ami. « Songez à votre mauvaise santé. Il me semble que tout ce que j'aime va mourir. » Atteint depuis longues années de cette aridité morose et de ce dégoût qu'il a si énergiquement écrit dans sa correspondance avec Madame de Montbéron, l'une de ses pénitentes, il n'exerce plus sa sensibilité sur lui-même, mais sur ceux auxquels il reste attaché. Ce culte de l'amitié, plus fort dans cette âme aimante que toutes les déceptions de la vie, lui a inspiré l'admirable lettre au chevalier des Touches qui date des derniers temps de sa vie et que nous n'avons eu garde d'omettre. Fénelon à la marquise de Laval, 22 mai 1681. Oui, madame, n'en doutez pas, si je suis un homme destiné à des entrées magnifiques. Vous savez celle qu'on m'a faite, à Bellac, dans votre gouvernement. Je vais vous raconter celle dont on m'a honoré en ce lieu. Monsieur de Bouffillac pour la noblesse, Monsieur Boz, curé, pour le clergé, Monsieur Rigaudy, prieur des moines, pour le corps monastique, et les fermiers de Séan pour le tiers-état, viennent jusqu'à Sarlat me rendre leurs hommages. Je marche accompagné majestueusement de tous ces députés, j'arrive au port de Carénac, et j'aperçois le quai bordé de tout le peuple en foule. Deux bateaux, pleins de l'élite des bourgeois, s'avancent, et en même temps je découvre que, par un stratagème galant, les troupes de ce lieu les plus aguerries s'étoient cachées dans un coin de la belle île que vous connoissez. De là, elles vinrent, en bon ordre de bataille, me saluer avec beaucoup de mousquetades. L'air est déjà tout obscurci par la fumée de tant de coups, et l'on n'entend plus que le bruit affreux du salpêtre. Le fougueux coursier que je monte, animé d'une noble ardeur, veut se jeter dans l'eau. Mais moi, plus modéré, je mets pied à terre. Au bruit de la mousquetade est ajouté celui des tambours. Je passe la belle rivière de Dordogne, presque toute couverte des bateaux qui accompagnent le mien. Au bord m'attendent gravement tous les vénérables moines, encore. Leur harangue est pleine d'éloges sublimes. Ma réponse a quelque chose de grand et de doux. Cette foule immense se fend pour m'ouvrir un chemin. Chacun a les yeux attentifs pour lire dans les miens quelle sera sa destinée. Je monte ainsi jusque au château d'une marche lente et mesurée, afin de me prêter pour un peu plus de temps à la curiosité publique. Cependant, 1000 voix confuses font retentir des acclamations d'allégresse, et l'on entend partout ces paroles. Il sera les délices de ce peuple. Me voilà à la porte déjà arrivée, et les consuls commencent leur harangue par la bouche de l'orateur royal. À ce nom, vous ne manquez pas de vous représenter ce que l'éloquence a de plus vif et de plus pompeux. Qui pourra dire quelles furent les grâces de son discours? Il me compara au soleil. Bientôt après, je fus la lune. Tous les autres astres les plus radieux eurent ensuite l'honneur de me ressembler. De là, nous vîmes aux éléments et aux météores, et nous finîmes heureusement par le commencement du monde. Alors le soleil, et toi déjà couché, et pour achever la comparaison de lui à moi, j'allais dans ma chambre pour me préparer à en faire de même. Fénelon à la même. Ici Jacques, 16 juin 1681. On n'a pas tous les jours un grand loisir, et un sujet heureux pour écrire en style sublime. Ne vous étonnez donc pas, madame, si vous n'avez pas vu chaque semaine une relation nouvelle de mes aventures. Tous les jours de ma vie ne sont pas des jours de pompe et de triomphe. mon entrée dans Carénac n'a été suivie d'aucun événement mémorable. Mon règne y a été si paisible qu'il ne fournit aucune variété pour embellir l'histoire. J'ai quitté ce lieu-là pour venir trouver ici M. de Sarlat, et j'ai passé à Sarlat en venant. Je m'y suis même arrêté un jour pour y entendre plaider une cause fameuse par les cicérons de la ville. Leurs plaidoyers ne manquèrent pas de commencer par le commencement du monde et de venir ensuite tout droit par le déluge jusqu'au fait. Il est toi question de donner du pain par provision à des enfants qui n'en avoient pas. L'orateur qui s'est toi chargé de parler aux juges de leur appétit mêla judicieusement dans son plaidoyer beaucoup de pointes fort gentilles avec les plus sérieuses lois du code et les métamorphoses d'Ovide avec des passages terribles de l'Écriture sainte. Ce mélange, si conforme aux règles de l'art, fut applaudi par les auditeurs de bon goût. Chacun croyoit que ses enfants feront bonne chère, et qu'une si rare éloquence alloit fonder à jamais leur cuisine. Mais, ô caprice de la fortune, quoique l'avocat eût obtenu tant de louanges, les enfants ne purent obtenir du pain. On appointa la cause, c'est-à-dire en bonne chicane, qu'il fut ordonné à ces malheureux de plaider à jeun, et les juges se levèrent gravement du tribunal pour aller dîner. Je m'y en allai aussi, et je partis ensuite pour apporter à Monseigneur vos lettres. Je suis arrivé ici presque incognito pour épargner les frais d'une entrée. Sur les 7 heures du matin, je surpris la ville. Ainsi, il n'y a ni harangue ni cérémonie dont je puisse vous régaler. Que ne puis-je, pour réjouir Mademoiselle de Laval, vous faire part des fleurs de rhétorique qu'un prédicateur de village répandit naguère sur nous, ses auditeurs infortunés. Mais il est juste de respecter la chair plus que le barreau. Fénelon au duc de Bourgogne, 1702. Enfant de Saint-Louis, imitez votre père. Soyez comme lui, doux, humain, accessible, affable, compatissant et libéral. Que votre grandeur ne vous empêche jamais de descendre avec bonté jusqu'aux plus petits pour vous mettre en leur place, et que cette bonté n'affaiblisse jamais ni votre autorité ni leur respect. Étudiez sans cesse les hommes, apprenez à vous en servir sans vous livrer à eux. Allez chercher le vrai mérite jusqu'au bout du monde. D'ordinaire, il demeure modeste et reculé. La vertu ne perce point la foule. Elle n'a ni avidité ni empressement, elle se laisse oublier. Ne vous laissez point obséder par des esprits flatteurs et insinuants. Faites sentir que vous n'aimez ni les louanges ni les bassesses. Ne montrez de la confiance qu'à ceux qui ont le courage de vous contredire dans le besoin, avec respect, et qui aiment mieux votre réputation que votre faveur. La force et la sagesse de Saint-Louis vous seront données si vous les demandez en reconnaissant humblement votre faiblesse et votre impuissance. Il est temps que vous montriez au monde une maturité et une vigueur d'esprit proportionnées aux besoins présents. Saint-Louis, à votre âge, étoie déjà les délices des bons et la terreur des méchants. Laissez donc tous les amusements de l'âge passé. Faites voir que vous pensez et que vous sentez tout ce que vous devez penser et sentir. Il faut que les bons vous aiment, que les méchants vous craignent, et que tous vous estiment. Hâtez-vous de vous corriger pour travailler utilement à corriger les autres. La piété n'a rien de fouable, ni de triste, ni de gêné. Elle élargit le cœur, elle est simple et aimable, elle se fait tout à tous pour les gagner tous. Le royaume de Dieu ne consiste point dans une scrupuleuse observation de petites formalités, il consiste pour chacun dans les vertus propres à son état. Un grand prince ne doit pas servir Dieu de la même façon qu'un solitaire ou qu'un simple particulier. Saint-Louis s'est sanctifié en grand roi. Il est toi intrépide à la guerre, décisif dans les conseils, supérieur aux autres hommes par la noblesse de ses sentiments. Sans hauteur, sans présomption, sans dureté, il suivoit en tout les véritables intérêts de sa nation, dont il est toi autant le père que le roi. Il voyoit tout de ses propres yeux dans les affaires principales. Il est toi appliqué, prévoyant, modéré, droit et ferme dans les négociations, en sorte que les étrangers ne se figoient pas moins à lui que ses propres sujets. Jamais prince ne fut plus sage pour policer les peuples et pour les rendre tout ensemble bons et heureux. Il émoit avec tendresse et confiance tous ceux qu'il devoit aimer, mais il est toi ferme pour corriger ceux qui l'émoient le plus quand ils avoient tort. Il est toi noble et magnifique selon les mœurs de son temps, mais sans faste et sans luxe. Sa dépense qui est toi grande se faisoit avec tant d'ordre qu'elle ne l'empêchoit pas de dégager tout son domaine. Longtemps après sa mort, on se souvenoit encore avec attendrissement de son règne, comme de celui qui devoit servir de modèle aux autres pour tous les siècles à venir. On ne parloit que des poids, des mesures, des monnaies, des coutumes, des lois, de la police, du règne du bon Saint-Louis. On croyoit ne pouvoir faire mieux que de ramener tout à cette règle. Soyez l'héritier de ses vertus avant que de l'être de sa couronne. Invoquez-le avec confiance dans vos besoins. Baisez souvent ses restes précieux. Souvenez-vous que son sang coule dans vos veines et que l'esprit de foi qu'il a sanctifié doit être la vie de votre cœur. Il vous regarde du haut du ciel où il prie pour vous et où il veut que vous régniez un jour en Dieu avec lui. Unissez votre cœur au sien. Conserva filimi praecepta patris tui. Fénelon au vidame d'Amiens, à Cambrai, 28 mars 1708. Il n'est pas étonnant, monsieur, que vous me craigniez. Pendant que vous ne serez pas d'accord avec vous-même, vous craindrez votre propre raison, et encore plus votre foi qui vous condamne. À plus forte raison, craindrez-vous un homme que vous supposez peu compatissant à vos infirmités. Pour moi, je ne suis pas aussi méchant que vous le croyez. Je vous plains, je voudrais pouvoir vous soulager. Que ne puis-je souffrir vos peines pour vous en délivrer. Il n'y a rien que je ne voulusse faire, excepté vous flatter par une mauvaise complaisance. Vous souffrez plus que vous ne souffririez si vous vous jetiez dans le sein de Dieu. Vous n'auriez chaque jour que les mêmes actions à faire, et l'amour vous les adouciroit. Plus vous écoutez votre mollesse et votre goût pour certains amusements, plus vous vous préparez d'embarras et d'obstacles. Que tardez-vous à vous déterminer ? C'est le partage du cœur et l'irrésolution qui vous font languir. Si vous étiez déterminé, vous verriez les choses tout autrement, et vous sentiriez ce que vous n'avez pas encore senti. Vous êtes convaincu de ce que vous devez à Dieu. Vous n'avez rien à opposer aux vérités de la religion que votre vivacité pour quelques amusements, et que votre tiédeur pour la vertu. Si veritatem dico vobis, quare non creditis mi? Puisque Jésus-Christ vous dit la vérité pour votre salut, pourquoi hésitez-vous? Pourquoi ne vous livrez-vous pas à sa grâce et à son amour? Malheur à l'homme qui a deux cœurs, oe duplici cordi. Oh, si vous aviez goûté la consolation et la liberté qu'on trouve à n'être qu'un, et à n'avoir qu'une volonté toute réunie vers le bien, vous regretteriez tous les moments perdus. C'est déjà une grande misère que d'avoir en soi la révolte de la chair contre l'esprit. Mais au moins l'esprit ne devroit pas être divisé. Il faudra qu'il fût d'accord avec soi-même pour ne vouloir que ce que Dieu veut. Faute de cette réunion intime, on n'a point de paix. On porte dans son cœur une guerre civile. Vous ne pouvez finir vos irrésolutions que par la prière. Raisonnez peu, mais priez beaucoup. Et, pour pouvoir prier beaucoup, prenez la prière avec une simplicité qui vous la facilite. Je vous ai écrit autrefois à l'armée une lettre sur la manière de vous occuper à l'oraison et de vous familiariser avec cet exercice. Vous ne sauriez vous y donner une trop grande liberté d'esprit pour y pouvoir persévérer sans trop de contention et de gêne. Parlez-y à Dieu, comme au meilleur de vos amis, de tout ce que vous connoissez de défauts en vous, de toutes vos peines, de tous vos besoins. Délibérez avec lui sur vos affaires et demandez-lui conseil sur tout ce qui mérite une décision. Pour ce qui est de certains partis à prendre, sans lesquels vous ne feriez que languir, il faut se tenir rigueur à soi-même et aller en avant sans regarder derrière soi. C'est par là qu'on en est quitte à meilleur marché. Quoique vous me craigniez comme un loup-garou, je meurs d'envie de vous embrasser à votre passage. Aimez, s'il vous plaît, monsieur, celui qui vous honore et aime sans mesure. Fénelon au duc de Bourgogne, septembre 1708. Monseigneur, je remercie Dieu du fond de mon cœur de voir la simplicité et la bonté avec laquelle vous daignez me découvrir ce qui se passe au-dedans de vous. Plus Dieu a des desseins sur vous, plus il est jaloux de tous vos talents naturels. Il veut que vous sentiez des tristesses, des abattements, des serrements de cœur, des irrésolutions, des embarras qui vous surmontent, et des impuissances qui vous rendent mécontent de vous-même. Oh, que cet état plaît à Dieu, et que vous lui déplairiez si, possédant toute la régularité des vertus les plus éclatantes, vous jouissiez de votre force et du plaisir d'être supérieur à tout. Dites avec David, mon Seigneur, « Et vilior fiam plus quam factus sum, et hero humilis inoculis meis. » Ne craignez rien, tant que vous serez petit sous la puissante main de Dieu. Allez, non comme un grand prince, mais comme un petit berger, avec 5 pierres contre le géant Goliath, pourvu que vous ne vous préveniez ni pour ni contre personne, que vous écoutiez tranquillement tout ce qu'il convient d'écouter ou de consulter, et qu'ensuite, sans aucun égard à vos goûts ou à vos dégoûts naturels, ni à vos préjugés, vous suiviez ce que Dieu présent et humblement invoqué vous mettra au cœur. Vous vous sentirez libre, soulagé, simple, décisif, et vous ne ferez des fautes qu'autant que vous manquerez à agir dans cette dépendance continuelle de l'Esprit de grâce. Si vous êtes fidèle à lire et à prier dans vos temps de réserve, et si vous marchez pendant la journée en présence de Dieu, dans cet esprit d'amour et de confiance familière, vous aurez la paix, votre cœur sera élargi, vous aurez une piété sans scrupule et une joie sans dissipation. Fénelon au duc de Bourgogne, septembre 1708. Je n'ai garde, mon Seigneur, de me mêler des affaires qui sont au-dessus de moi, et principalement de celles de la guerre, que j'ignore profondément. Mais la connoissance de vos bontés et un excès de zèle me font prendre la liberté de vous dire, par cette voix très sûre et très secrète, que si Dieu permet toi que vous ne puissiez pas secourir l'île, il conviendra au moins, si je ne me trompe, que vous fissiez les dernières instances pour obtenir la permission de demeurer à la tête des armées jusqu'à la fin de la campagne. Quand un prince comme vous, Monseigneur, ne peut pas acquérir de la gloire par des succès éclatants, il faut au moins qu'il tâche d'en acquérir par sa fermeté, par son génie et par ses ressources dans les tristes événements. Je suis persuadé, Monseigneur, que toute la pente de votre cœur est pour ce parti. Il ne dépend pas de vous de faire l'impossible. Mais ce qui peut soutenir la réputation des armes du roi et la vôtre est que vous fassiez jusqu'à la fin tout ce qu'un vieux et grand capitaine fera pour redresser les choses. Les habiles gens vous feront alors justice. Et les habiles gens décident toujours, à la longue, dans le public. Souffrez cette indiscrétion du plus dévoué et du plus zélé de tous les hommes. Fénelon à la sœur Charlotte de Saint-Cyprien, Carmélite, à Cambrai, 17 janvier 1711. Je n'ai point, ma très honorée sœur, la force que vous m'attribuez. J'ai ressenti la perte irréparable que j'ai faite avec un abattement qui montre un cœur très faible. Maintenant mon imagination est un peu apaisée, il ne me reste qu'une amertume et une espèce de langueur intérieure, mais l'adoucissement de ma peine ne m'humilie pas moins que ma douleur. Tout ce que j'ai éprouvé dans ces deux états n'est qu'imagination et qu'amour-propre. J'avoue que je me suis pleuré en pleurant un ami qui faisoit la douceur de ma vie et dont la privation se fait sentir à tout moment. Je me console comme je me suis affligé, par lassitude de la douleur et par besoin de soulagement. L'imagination, qu'un coup si imprévu, à voix saisie et troublée, s'y accoutume et se calme. Hélas, tout est vain en nous, excepté la mort à nous-mêmes que la grâce y opère. Au reste, ce cher ami est mort avec une vue de sa fin qui est toi si simple et si paisible que vous en auriez été charmé. Lors même que sa tête se brouilloit un peu, ses pensées confuses et toi toutes de grâce, de foi, de docilité, de patience et d'abandon à Dieu. Je n'ai jamais rien vu de plus édifiant et de plus aimable. Je vous raconte tout ceci pour ne vous représenter point ma tristesse, sans vous faire part de cette joie de la foi dont parle saint Augustin et que Dieu m'a fait sentir en cette occasion. Dieu a fait sa volonté. Il a préféré le bonheur de mon ami à ma consolation. Je m'en crois à Dieu et à mon ami même si je ne vouloie pas ce que Dieu a voulu. Dans ma plus vive douleur, je lui ai offert celui que je craignois tant de perdre. On ne peut être plus touché que je le suis de la bonté avec laquelle vous prenez part à ma peine. Je prie celui pour l'amour de qui vous le faites de vous en payer au centuple. Fénelon au marquis de Fénelon. Cambrai, 6 décembre 1712. Bonjour, Fanfan. Je souhaite qu'en t'éloignant de Cambrai, tu ne te sois point éloigné de notre commun centre et que notre absence n'ait point diminué en toi la présence de Dieu. L'enfant ne peut pas téter toujours, ni même être sans cesse tenu par les lisières. On le sèvre, on l'accoutume à marcher seul. Tu ne mourras pas toujours. Il faut que Dieu te fasse 100 fois plus d'impression que moi, vile et indigne créature. Fais ton devoir parmi tes officiers avec exactitude, sans minutie, patiemment et sans dureté. On déshonore la justice quand on n'y joint pas la douceur, les égards et la condescendance. C'est faire mal le bien. Je veux que tu te fasses aimer, mais Dieu seul peut te rendre aimable, car tu ne l'es point par ton naturel roide et âpre. Il faut que la main de Dieu te manie pour te rendre souple et pliant. Il faut qu'il te rende docile, attentif à la pensée d'autrui, défiant de la tienne, et petit comme un enfant. Tout le reste est sottise, enflure et vanité. Madame de Chevry souffre encore. Nous ne savons rien de nouveau, rien qui me fasse plaisir, sinon que Fanfan reviendra vendredi. Fénelon au chevalier des Touches, 2 avril 1712. Je ne désire point un siège, car je suis un prêtre pacifique et ennemi de l'effusion du sang. Mais je désire une occasion de vous embrasser. Venez donc voir vos bombes, et nous, par occasion. Votre santé m'alarme toujours. Les fatigues de la guerre, et plus encore celles de la table, sont terribles pour vous. Je commençois à goûter ici le repos et la liberté que je désire, roi. Sed vacuum tibur placet aut imbelle tarentum. Mais Cambrai n'est nullement imbellis. Le bruit des caissons nous étourdit nuit et jour. Je crains qu'avant de finir cette guerre, on ne fasse casser bien des têtes. J'aurai grand regret à celles qui sont bien faites. Le nombre n'en est pas fort grand. Bonsoir, monsieur. Vivez, dormez la nuit et peu le jour. Mangez modérément, digérez sans peine et aimez ceux qui vous aiment tendrement. Fénelon au chevalier des Touches. 1er novembre 1713. Je n'osois vous écrire, mon cher bonhomme, ne sachant point si vous étiez instruit. Le sujet est toi très bon, c'est grand dommage. Il y en a peu qui méritent autant de regrets. Les vrais amis font notre plus grande douceur et notre plus grande amertume dans la vie. On sera tenté de désirer que tous les bons amis s'entendissent pour mourir ensemble le même jour. Ou pour mieux faire, à l'exemple de Philémon et Baucis, l'un devra devenir chêne au moment où il verroit l'autre, auprès de lui, devenir tilleul. Ceux qui n'aiment rien voudront enterrer le genre humain, les yeux secs et le cœur content. Ils ne sont pas dignes de vivre. Il en coûte beaucoup d'être sensible à l'amitié, mais ceux qui ont cette sensibilité seront honteux de ne l'avoir pas, et ils aiment mieux souffrir que d'être insensibles. Conservez-vous. La fin de la campagne approche. Quand vous serez à Paris, consultez à fond sur votre mal et livrez-vous aux meilleurs conseils. C'est vous que je crains encore plus que le mal même. Vous avez raison de m'aimer, supposez que l'amitié demande du retour. Ici se terminent les lettres de Fénelon.